Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mercredi 28 mai 2025. Et les marchés montent, l'économie ralentit, les taux hurlent au secours et tout le monde s'en fout. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'en tape? Ben parce que Trump a reporté ses tarifs de destruction massive sur l'Europe. On ne règle rien, mais par contre on célèbre le délai, la grande classe et les champions du monde de la vision à court terme. En attendant Nvidia ce soir et l'inflation PCE à vendredi, la bourse vit sous perfusion narrative, euphorie artificielle et espoir fumeux d'un miracle économique mystérieux. Mais pendant que les indices font la fête, les obligations couinent, la dette déborde et le trésor US tente de bidouiller les lois pour calmer les taux longs. Bref, nous sommes dans une illusion de stabilité avec Nvidia en juge de paix. Enfin, jusqu'à demain soir, quand il sera temps déjà de passer à autre chose. Pour le moment, je ne sais pas vous, mais on a quand même l'impression qu'on vit dans une pièce de théâtre, que tout ça n'est pas vrai. Nous sommes dans un vaudeville boursier, géopolitique et monétaire. Sauf que le scénario est toujours le même et parfois on a l'impression qu'on a déjà vu l'épisode et que l'on connaît déjà la fin. Un peu comme si Netflix ne classait plus ses séries dans l'ordre et qu'on se retrouvait à se taper des saisons entières dans le désordre et essayer de tout remettre en place dans nos têtes au fur et à mesure. Dans l'épisode du moment, épisode qui n'en finit pas d'ailleurs, Trump menace, les marchés paniquent, Trump recule, les marchés exultent et hop, deux jours de rallye sur une non-nouvelle, un simple report de deadline qui ne règle absolument rien. La bourse fonctionne désormais à la dopamine tarifaire, shootée à l'imprévisible, accrochée au moindre tweet ou clin d'œil de Trump. Et cette semaine, le manège a recommencé. Et les 50% de droits de douane sur les produits européens initialement prévus le 1er juin sont repoussés au 9 juillet. Un simple « on verra plus tard » qui a suffi à déclencher une euphorie généralisée sur les marchés après le début d'une love story entre Trump et von der Pfizer. On ne célèbre plus les résultats économiques, on célèbre le fait que le chaos soit reporté à plus tard. Autant vous dire qu'on a vraiment l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression de réécrire la chronique d'hier, sauf que cette fois, c'est les Américains qui ont profité des annonces de dimanche soir. Vivement que l'on revienne sur du factuel et qu'on arrête de fonctionner en fonction des envolées lyriques du joueur de pipeau de la Maison-Blanche. Ce mardi, Wall Street s'est donc envolé, plus 741 points sur le Dow Jones, plus 2,05% pour le S&P 500, plus 2,47% pour le Nasdaq. Les investisseurs qui étaient encore bourrés après les barbecues du week-end prolongés du Memorial Day se sont rués sur les actions, comme si Trump venait de signer un traité de paix économique mondiale et qu'il laissait finalement tomber la stratégie des droits de douane, qu'il ouvrait les frontières des États-Unis à tout le monde et qu'en plus, il avait trouvé un remède contre le cancer entre lundi soir et mardi matin. Mais attention, attention, j'insiste, ce rebond est construit sur du sable. Non, parce qu'en réalité, rien n'a été réglé, les négociations commerciales avec l'Europe restent au point mort, Trump a seulement à faire un récit tactique, une carotte fiscale et donner l'impression qu'on était tous des frères. Pourtant, pendant ce temps, l'économie mondiale retient son souffle, car ce n'est pas une question de si, mais de quand le prochain coup de massue tombera. On sait qu'il va nous en refaire une, et probablement avec la Chine. On est parfaitement conscient du fait que le président américain ne va pas, comme par magie, oublier de revenir sur le sujet et passer à autre chose. Il va forcément s'en reprendre à quelqu'un, à quelque chose, ou aux deux en même temps. Et c'est là tout le paradoxe actuel. On a un marché qui célèbre des retards de sanctions, comme s'il s'agissait de relance économique massive et de solutions pérennes, alors que même les fondamentaux macroéconomiques hurlent à l'instabilité. En ce moment, l'ensemble des indices vit sous assistance respiratoire et on refuse de voir le risque pour célébrer un éventuel miracle. Tout est suspendu à l'attente, attente de chiffres, attente de discours, attente d'un miracle politique ou technologique, et c'est précisément cette accumulation d'attentes qui rend la situation tout aussi intenable qu'hypnotique. On ne va pas se mentir, hier, les States c'était en pleine bourre pour fêter les reports des droits de douane au 9 juillet. Ça n'est pas une garantie, c'est un sucre pour faire croire aux Européens qu'on est ses potes. Mais derrière, il a les doigts croisés dans le dos et à la première occasion, il va nous en mettre une dans les dents. Mais peu importe, maintenant que la séance d'hier est derrière nous, que les célébrations sont faites et que le S&P 500 n'est plus qu'à 3,6% du plus haut de tous les temps, on peut se reconcentrer sur nos attentes de la semaine. En ligne de mire, deux échéances cruciales, et quand je dis cruciales, je le le dis avec un C majuscule et des caractères très très gras. Tout d'abord, les résultats de Nvidia ce soir, ensuite l'inflation PCE vendredi, deux rendez-vous qui serviront de révélateurs. Malgré ce début de semaine en fanfare, le fond du tableau reste flou, un peu comme mon écran le matin quand j'ai oublié mes lunettes au restaurant et que je suis obligé de mettre les caractères de Word en Arial 25 pour y voir quelque chose. L'économie ralentit, les taux longs restent perchés, ils baissent un poil, ok, mais ils sont encore trop. La dette explose, mais on continue à acheter parce qu'on espère que l'IA va tout régler, parce qu'on espère que Trump négociera avec gentillesse et bienveillance, et puis surtout on achète parce qu'on n'a plus le choix. Il faut maintenir la hype avec de la hype, sinon ben, c'est pas drôle. En Europe, comme on avait déjà salué les accords du 9 juillet durant la séance de lundi, on n'a rien fait en attendant d'en savoir plus, normal. Paris a fait du surplace, histoire de digérer sa jolie hausse de lundi. Puis, toujours en salle d'attente, Francfort s'accroche à ses records, mais avec un volume d'échange anémique, un volume historiquement bas. C'est comme si tout le monde était sur pause, prêt à réagir, mais sans conviction, aucune pour l'instant. En Suisse, le SMI grappille un plus 0,06% porté par l'euphorie de Richemont, plus 1%, et grâce aux exportations horlogères vers les USA, en hausse de 149%. On espère d'ailleurs que Trump n'a pas vu passer le chiffre, il est capable de mettre une taxe spéciale contre les horlogers suisses qui ne fabriquent pas aux USA. En résumé, très belle journée de récupération du temps perdu à New York, et grosse séance d'emmerdement maximum en Europe, parce qu'on ne sait pas quoi faire, et qu'en plus, demain, c'est l'ascension. Mais pendant que les indices boursiers jouent à la chaise musicale, c'est dans les tranchées du marché obligataire que le vrai match se joue. Le Trésor américain prévoit d'émettre pour 183 milliards de dettes cette semaine. Hier, nous avons eu droit à la première salve, 69 milliards à 2 ans, résultat correct avec un taux à 3,95-50 et une demande un peu meilleure qu'en avril. Les banques centrales étrangères ont pris 63,3% de l'offre. C'est pas génial, mais c'est moins pire que la dernière fois. On respirait un peu mieux, mais sans pour autant crier victoire. Le vrai moment de vérité, c'est au Japon. Ce mercredi, Tokyo émet l'équivalent de 3,5 milliards de dollars en dette à 40 ans. Et là, attention, danger, car la dernière vente à 20 ans a été un désastre, personne n'en a voulu. Résultat, un mini crash obligataire japonais qui a contaminé le reste du monde. Si cette vente à 40 ans se plante aussi, on aura la preuve qu'un palier a été franchi et que la digestion de la dette devient indigeste, justement, que la fête est peut-être bien terminée. Et c'est dans ce contexte que Scott Bessent, patron du Trésor américain, veut jouer les pompiers. Son idée, c'est de modifier le Supplementary Leverage Ratio, alias le SLR, rien à voir avec la Mercedes. Cette règle héritée de 2008 impose aux banques de conserver un coussin de capital même face aux actifs considérés comme sans risque, comme les bons du Trésor. L'idée de Bessent, c'est de desserrer cette contrainte pour inciter les banques à revenir sur le marché de la dette publique. En théorie, cela devrait augmenter la demande des Treasuries, donc faire baisser le taux. En pratique, c'est un peu moins évident. Souvenez-vous de la Silicon Valley Bank, une banque qui a explosé pour avoir misé trop lourdement sur des obligations longues sans se couvrir. Depuis, les banques se méfient, et même si on leur donne plus de marge de manœuvre réglementaire, cela ne veut pas dire qu'elles iront se gaver de dettes à 30 ou 40 ans. Hier soir, il y avait un stratégiste qui le disait très bien, même si on assouplit le SLR, les banques ne bougeront pas. Si elles ne bougent pas, qui devra intervenir? Ah oui, la Fed, encore elle. Et on repart pour un tour d'assouplissement monétaire déguisé de marché sous perfusion et d'un système qui tient un coup de morphine réglementaire et qui est incapable de s'assumer sans l'aide de la banque centrale. Pas sûr que cette nouvelle solution miracle soit si miraculeuse que ça. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a Nvidia, le roi de l'intelligence artificielle. Le dernier des Magnificent Seven a publié, celui qui peut faire ou défaire un trimestre entier à lui tout seul. Depuis avril, la tech a effacé ses pertes grâce à un rebond spectaculaire porté par l'IA. Et hier soir, c'est eux encore qui tiraient le marché. Nvidia a repris 56% depuis les points bas extrêmes du mois d'avril. Mais ce soir, il va falloir délivrer. Le marché attend un chiffre d'affaires de 43,3 milliards, un bénéfice par action de 73 cents et une croissance des revenus dans les data centers de plus 74% contre 93% précédemment. Mais ce ne sont pas les chiffres bruts qui vont compter, c'est le message, le storytelling. Est-ce que Nvidia peut survivre à la coupure avec la Chine? Est-ce que le lancement imminent d'une puce Blackwell allégée, mais conforme, suffira à reprendre pied dans l'empire du milieu? Est-ce que les marges peuvent remonter après être tombées à 58%? Bref, est-ce que Nvidia peut porter à lui seul le narratif IA qui justifie encore les multiples délirants sur certains papes de la tech US? La question, elle sera vite répondue ce soir. Parce que si Nvidia déçoit, le château de cartes risque bien de commencer à vaciller sérieusement, et pas seulement pour les valeurs technologiques. Toute la logique actuelle des marchés, celle du « on investit dans l'avenir parce que le présent il est vraiment trop moche », pourrait être remise en question. En résumé, à l'heure actuelle, nous vivons dans une illusion de stabilité, une mise en scène parfaitement huilée où l'espoir prime sur les faits et où les taux montent pendant que les actions volent et où l'économie réelle est oubliée sous une avalanche de puces, de narratifs et de tweets politiques. Ce soir, Nvidia n'est pas qu'un constructeur de semi-conducteurs, qu'un fabricant de semi-conducteurs. C'est le baromètre émotionnel d'un marché qui est en état de dépendance avancée. Et si Nvidia éternue, ce n'est pas juste le Nasdaq qui prendra un Doliprane, c'est tout le système qui devra aller chercher un nouveau dealer. Ce matin, l'Asie a surfé sur l'euphorie post-Wall Street. Trump repousse ses tarifs et tout le monde souffle. Respire. Les techs mènent la danse, dopés par Xiaomi et l'attente du grand oral de Nvidia. À Séoul, le Kospi s'envole, porté par les fournisseurs de puces, mais en Chine, c'est la soupe à la grimace. PDD déçoit, rien à voir avec Puff Daddy. La consommation tousse et la déflation rôde. Même un Xiaomi au top n'arrive pas à compenser. Résultat, un marché asiatique à deux vitesses, suspendu à la magie de l'intelligence artificielle et aux humeurs de Washington. Le Nikkei est en hausse de 0,3%. Le Hang Seng recule de 0,5% et la Chine est en hausse de 0,07%, mais sans avoir le permis de tuer. Et du côté du baril, ça reprend un peu le poil de la bête. Trump interdit à Chevron d'exporter du brut vénézuélien et hop, l'offre se resserre. Résultat, les prix remontent doucement à 61,22 et pendant ce temps, le PEP fait semblant de réfléchir à une hausse de la production pour juillet. En parallèle, l'Iran et les US patinent dans leur tango nucléaire et les raffineries, elles, commencent à transpirer. L'or est à 3324, le Bitcoin à 109 000 $ et le rendement du 10 ans américain était 4,4770. Du côté des news du jour, on notera que Salesforce lâche 8 milliards pour s'offrir Informatica, le roi des catalogues de données, histoire de muscler son jeu en IA. Et les marchés applaudissent, plus 6% pour Informatica, plus 1% pour Salesforce. Et derrière ce rachat, une promesse des agents IA vraiment autonomes, mais surtout une course à l'armement technologique et qui ne fait que commencer. Et puis Trump parle de nouvelles sanctions contre Poutine. Il ne se passe plus un jour sans qu'il s'en prenne verbalement à son homologue russe. Mais au-delà de tout ça, je viens de faire le tour de la première page du Wall Street Journal et c'est absolument dingue de voir que la moitié des articles qui sont mis en avant commence par Trump ou Donald Trump ou le président Trump. Je n'ai pas souvenir d'une telle omniprésence dans les médias lors de son premier mandat. Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais chiant sûrement. Pour les chiffres du jour, vous savez déjà pour Nvidia, vous savez aussi pour les minutes du FOMC meeting qui sortiront ce soir et qui ne nous apprendront rien de plus, mais par contre on ne parle pas assez du PIB français ainsi que des dépenses du consommateur en France, consommateur qui va consommer de moins en moins vu les sacrifices que le génie Bérou va leur demander de faire. Bref, tout ça pour dire qu'il y aura le PIB français, les dépenses de consommation et le chômage en Allemagne, et il y aura aussi plusieurs collègues de Powell qui vont parler pour dire que les taux vont pas baisser, mais celui que l'on écoutera le plus, c'est Jensen Huang après la clôture. Passez une excellente journée et un très bon jeudi de congé. On se retrouve vendredi pour faire le point, ou peut-être demain s'il y a vraiment un truc à dire, style Nvidia qui a perdu 35% after close. Et pendant que j'ai votre attention, je voudrais encore vous signaler que dorénavant, j'ai une fonction de plus, puisque le Zone Bourse m'a fait l'honneur de m'ouvrir les portes de leur chaîne YouTube, et que désormais, je publierai une vidéo tous les vendredis, une vidéo sur la finance qui s'appelle déjà « La finance décomplexée ». Et le premier épisode a été publié hier. Et vous avez le lien ici présent. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, à en parler, à la partager et à retourner régulièrement sur le site Zone Bourse, sur leur chaîne YouTube. Merci à tous d'être là. Très belle journée. Et à tout soudain !